Le journal Bernadette Chamonaz, bonjour.
Bonjour à Lyon, un combat pour la dignité des écoles reste ouverte la nuit pour accueillir des enfants sans abri. 160 enfants, 80 familles sans aucun logement. Nous irons à Lyon où la crise de l'hébergement d'urgence dure depuis des mois. Réforme des retraites, le Premier ministre promet de nouvelles marges de négociation. La CGT n'y croit pas et appelle à la grève le 9 janvier. Vous entendrez Philippe Martinez, on fera le point aussi sur le trafic des trains pour Noël. Voyageurs, toujours pas à la fête. Dans l'actualité, encore nouvelle baisse du denier du culte, en partie à cause de Notre-Dame, on verra pourquoi. Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, réveillon avec les soldats français et la passion biathlon pour la Coupe du Monde au Grand Bornand.
Et un invité exceptionnel à 7h50 ce matin, c'est le peintre Pierre Soulages que nous avons pu rencontrer avec Léa Salamé il y a quelques jours à l'occasion de la rétrospective de ses œuvres au musée du Louvre.
France Inter.
Des enfants dorment sous les ponts.
Nous sommes en France, à Lyon, 160 enfants qui n'ont aucun logement, même précaire, même temporaire. Rien, aucune solution d'hébergement d'urgence pour 80 familles, si ce n'est la bonne volonté de quelques écoles qui restent ouvertes, qui mènent bien seules un combat pour la dignité. À Lyon, le reportage de Mathilde Imberti.
Mariol et sa famille changent de pont chaque soir. Ils dorment parfois sous la gare de Lyon-Perrache, parfois près du Rhône. Cette famille albanaise, deux enfants, 8 et 11 ans, est sans abri depuis le mois d'avril. Mariol est scolarisée en CE2.
J'ai pas de maison, je dors dehors. C'est un peu difficile pour moi.
Je rappelle tous les jours son 15. Il me dit qu'il n'y a pas place.
Malgré l'augmentation du nombre de places d'hébergement d'urgence, 6000 permanentes plus 1000 en hiver, le système est engorgé. Alors pour éviter la rue à ces familles, certains établissements sont occupés. À l'école Audrey Byrne, depuis un mois, des élèves dorment dans les salles de classe. Adélaïde, enseignante, se relaye avec d'autres pour les permanences de nuit. Et à l'heure du petit déjeuner, elle chauffe le lait des enfants.
C'est nos élèves, on le voit aux vêtements, aux odeurs, à la fatigue. Et ils nous disent qu'ils dorment dehors. Quand même, ça nous fait mal au cœur un peu. Donc on réagit.
Dominique enseigne le français. Lui aussi dort à l'école.
Donc c'est des enfants qui étaient souvent fatigués quand ils arrivaient en classe. Depuis qu'on les héberge dans l'école, ils sont quand même plus disponibles pour les apprentissages. Et on voit quand même une nette différence.
Les vacances débutent ce soir, mais les enseignants et les parents sont prêts à poursuivre. Selon le collectif Jamais sans toi, plus de 150 enfants dans la métropole de Lyon n'ont aucune solution de logement. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Le collectif Jamais sans toi, créé en 2014, donc il y a 5 ans, et depuis la situation n'a fait qu'empirer. Des enfants sous les ponts, c'est un dossier à retrouver sur franceinter.fr. Réforme des retraites, pas de trêve à Noël dans la contestation. Deux dépôts de bus sont d'ailleurs bloqués ce matin en Île-de-France. Alors si l'UNSA ferroviaire décide d'une pause pendant les fêtes, la CGT, premier syndicat chez les cheminots, ne voit rien de nouveau. Après deux jours de discussion entre partenaires sociaux et Premier ministre, son secrétaire général Philippe Martinez, hier sur le perron de Matignon.
Rien de changé par rapport à ce que vous avez déjà entendu, si ce n'est un programme de réunion prévu début janvier pour parler de tout ça. Donc c'est beaucoup de promesses. La seule chose qui est concrète, c'est que le Premier ministre n'a pas entendu la rue et donc nous met devant nos responsabilités. Et donc au nom de l'intersyndicale, je peux vous annoncer qu'une prochaine journée interprofessionnelle d'action aura lieu le 9 janvier prochain. Voilà.
Ce sera donc la quatrième journée d'action depuis le début de la contestation. Rien de changé, dit la CGT. Édouard Philippe a cependant été plus précis sur plusieurs points de négociation possibles. Pénibilité, retraite progressive des fonctionnaires, fin de carrière à l'hôpital, retraite minimum qui pourrait aller au-delà des 85% du SMIC. Sur l'âge pivot, petite ouverture, on pourrait tenir compte des situations individuelles. Alors Laurent Berger va-t-il stopper là? On en saura plus à 8h20 puisque le secrétaire général de la CFDT est l'invité de la matinale. Le trafic, lui, est toujours perturbé aujourd'hui, assuré à 60% seulement pour les bus, deux dépôts bloqués en Île-de-France, 4 TER sur 10, un intercité, un transilien sur 4, un TGV sur 2. Pour les départs ce week-end, la SNCF assurait que tous les voyageurs trouveraient une place. La promesse sera-t-elle tenue, Philippe Lefebvre ?
Eh bien, ce sera beaucoup plus compliqué que ce qu'affirmaient la SNCF et la ministre des Transports ces dernières heures, car seuls 53% des clients de la SNCF qui avaient réservé leur billet pour ce week-end auront bel et bien une place dans un train. Pour les autres, les plus chanceux ont déjà été automatiquement transférés sur un autre train et bien sûr prévenus, mais restent 272 000 clients passagers qui ont dû se débrouiller débrouiller seuls devant leur ordinateur ou les bornes dans les gares pour tenter, pas forcément avec succès, de trouver un autre train. Hier, la SNCF n'était d'ailleurs pas en mesure de nous expliquer pourquoi ces passagers avaient été purement et simplement abandonnés par l'entreprise. Ajoutez à cela les 6000 enfants qui devaient voyager seuls, dont les billets ont été purement et simplement annulés officiellement pour trouver de la place dans les TGV pour les passagers adultes. Enfin, pour ceux qui comptaient partir les 23 et 24 décembre, eh bien, ce ne sera guère mieux puisque la SNCF indique que 41% des TGV et des intercités circuleront et que près de la moitié de ses clients, 48%, devront là encore se débrouiller pour tenter de trouver une autre place dans un autre train.
Philippe Lefebvre, chasse au plastique, nouvelle filière pollueur-payeur. Les députés adoptent en première lecture le projet de loi anti-gaspi. Parmi les principales mesures, fin des emballages plastiques à usage unique en 2040. Beaucoup trop tard pour l'ONG WWF qui juge le texte très décevant. Autre mesure, interdiction d'ici 2027 des micro-plastiques dans les cosmétiques, détergents, produits d'entretien ou encore les dispositifs médicaux. Enfin, les professionnels devront payer pour leurs déchets, que ce soit dans le bâtiment, bricolage, jardinage ou encore pour les articles de sport.
France Inter, 7h36, réveillons avec les soldats français en Afrique pour Emmanuel Macron.
Réveillons en Côte d'Ivoire avec les forces françaises qui sont basées à Port-Boué, près d'Abidjan. 950 militaires qui ont pris la suite de la force Licorne qui avait été déployée au moment de la guerre civile dans le pays. Capables aussi ces militaires d'intervenir ponctuellement au Sahel. Bertrand Galichet suit ce déplacement présidentiel en Afrique.
Recevoir le chef de l'État avec un dîner de 1000 couverts, une consécration pour la base interarmée de Port-Boué, le colonel Frédéric Gauthier, commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire.
Quand le chef des armées se déplace, c'est l'occasion pour lui de concrétiser la reconnaissance de la population française à l'égard de son armée. C'est aussi un moment particulier puisque ce sont les fêtes de fin d'année et là, en raison de cette mission, un grand nombre d'entre nous les passent loin de chez eux.
Même si plus de 80% des effectifs de la base ne restent sur place que 4 mois, l'une de leurs principales missions, maintenir une réserve stratégique capable de se déployer dans la région à tout moment. Dans les ateliers, l'adjudant-chef Michael, d'origine ukrainienne, supervise l'entretien des blindés légers VAB et AMX-10 soumis à rude épreuve.
Passer les pistes, déjà, d'autre part, la fréquence d'utilisation des matériels. Ici, les opérations s'enchaînent.
C'est l'humidité, le sable,
corrosion, ainsi que état, on peut dire, des matériels un peu vétustes quand même. Ici, le contexte est différent, donc on s'adapte.
Ce soir, Emmanuel Macron pourra constater que l'autre mission des forces françaises en Côte d'Ivoire ne faiblit pas, la formation de l'armée ivoirienne, avec laquelle des exercices sont régulièrement organisés, dernièrement pour breveter des parachutistes. Abidjan, Hélène Langlois, Bertrand Galichet, France Inter.
Dimanche, avant de rentrer en France, Emmanuel Macron fera un bref passage par Niamey au Niger pour rendre hommage aux 71 soldats nigériens tombés le 10 décembre. Attaque revendiquée par le groupe État islamique. C'est la plus meurtrière subie par l'armée nigérienne. En Australie, la situation s'arrange un peu sur le front des incendies provoqués par des températures qui ont frôlé les 50 degrés. L'air est moins irrespirable ce matin à Sydney où l'état d'urgence a tout de même été décrété. En France, 9000 foyers de la Drôme et de l'Ardèche n'ont plus de courant ce matin à cause du vent, des rafales à plus de 100 km/h. Dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a même eu cette nuit des rafales à 207 km/h. Le département n'est plus en vigilance orange, mais 23 départements de Bourgogne jusqu'à la Côte d'Azur le sont, soit au vent, soit aux fortes pluies. Question, en cette période de Noël, les chrétiens seraient-ils moins charitables? Le constat est là, le denier du culte ne cesse de baisser. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer, notamment pour cette année, l'incendie de Notre-Dame. Alors dans les églises, Julie Pietri, on relance la quête.
Prenez cette enveloppe, l'église ne vit que de votre générosité. Dans l'église parisienne Saint-Léon, une pile de documents a été placée bien en vue pour inciter les paroissiens à donner.
Ça peut apparaître dans les discours en fin de messe, ils nous demandent de participer à la vie du diocèse. Je donne une fois par an, moi.
Je donne régulièrement. Je suis toujours un petit peu agacée de recevoir des rappels, des rappels, des rappels.
Surtout que dans cette église, et ce n'est pas la seule, un autre appel aux dons est affiché. pour Notre-Dame cette fois-ci, pour reconstruire la cathédrale incendiée. Et justement, l'épiscopat estime que cela a joué dans la baisse du denier du culte cette année. Ambroise Laurent est chargé des questions économiques à la conférence des évêques de France.
Ce qui est donné pour la reconstruction de Notre-Dame est autant de moins qu'il peut être donné pour l'église du coin ou pour les traitements des prêtres et des salaires du diocèse auquel on appartient. Les donateurs ont déjà été sollicités et ils ont répondu massivement pour Notre-Dame.
La baisse du denier du culte a déjà eu des effets, dit-il, fermeture de salles paroissiales ou départ à la retraite de laïcs qui ne sont pas remplacés.
Julie Pietri, l'église qui relance aussi la campagne de dons sur Internet. On termine avec la passion biathlon Grand Bornand. 13 000 spectateurs pour assister hier à l'étape française de la Coupe du Monde, Richard Vivion.
Quand le biathlon rime avec passion.
Moi, je suis le biathlon depuis des années et puis voilà, je suis les épreuves depuis toujours.
Et par amour pour le biathlon, Dominique n'a pas hésité à faire plus de 400 km et déserter Paris.
Absolument. On a pris une semaine de vacances, on a réservé depuis l'année dernière.
Dans les tribunes, il y a également Justin, 7 ans, et déjà à fond.
Martin, Pourcal, parce qu'il est fort, trop trop fort.
Alors voir les biathlètes à l'entraînement, c'est encore mieux, assure Jean-Paul.
Bah parce qu'on aime bien les voir, les voir de plus près, on peut voir tout ce qu'ils font sur la piste, les tirs, tout.
On voit mieux les coureurs.
Comme on n'aura pas accès aux tribunes tout le week-end, ça fait des années qu'on suit.
Et les fans de biathlon pourront encore peaufiner leur voix aujourd'hui avec une nouvelle session d'entraînement.
Et puis il y aura certainement une ambiance survoltée avec le sprint féminin cet après-midi.
Merci Bernadette Chamenaz. Et puisqu'on a parlé de sport, coup de chapeau à Cédric Guillou de la direction des sports de Radio France, lauréat du Micro d'Or. C'est le meilleur reportage radio sport de l'année pour ce Zoom qu'il avait consacré au racisme dans le football italien diffusé sur France Inter.